BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission qui s'occupe de votre argent, de vos finances personnelles. On est en direct à la radio, à la télé, sur le web de 10h à midi, même quand les marchés sont fermés comme aujourd'hui. Et puis on est à toute heure de la nuit et du jour en podcast. Nous sommes le vendredi 29 mars 2024. Au programme, les bourses sont fermées, oui, mais on va quand même parler marché boursier, notamment avec Olivier Lévy. On va faire le bilan du premier trimestre côté bourse et des performances, notamment à Paris depuis le début de l'année. Y a-t-il encore des opportunités d'investissement? 10h30, votre dose d'économie comme tous les jours avec Nicolas Dose. Il nous emmène à la foire. À la foire fiscale, celle qui a démarré il y a 48 heures. La créativité de nos élus pour inventer de la fiscalité est sans limite, alors qu'aucun ne semble venir avec des idées d'économie. On en parlera tout à l'heure avec Nicolas. Double séance de coaching aujourd'hui. D'abord à 10h45, notre macroéconomiste Nathalie Benatia pour votre séquence d'éducation financière. On va zoomer sur les indicateurs de confiance des ménages. Chiffres publiés cette semaine dans plusieurs pays, dont la France. Qu'est-ce que ça signifie pour nous, les épargnants? Séquence Private Equity avec Alexandre Leng vers 10h05. On vous coach 5 ans après le lancement du plan Deep Tech. Nouveau paysage de l'innovation en France. Comment investir dedans? Comment investir dans le secteur des Deep Tech? Réponse avec Alexandre. Le vendredi, c'est 30 minutes d'immobilier. Aujourd'hui, spécial expatrié et investissement à l'étranger avec nos experts, dont Guillaume Erard du Figaro Immobilier. On va parler de ces trois pays où les Français achètent le plus de l'immobilier. C'est notamment l'Espagne. Je vous en dis pas plus. Réponse à 11h15. Et puis, c'est vendredi, édito crypto avec Amaury de Tonquédec pour tout comprendre de l'actualité Web3 et crypto de la semaine. Au programme, il y a vous. Vous êtes nombreux et nombreuses à nous écouter en podcast. Merci pour votre soutien et votre écoute. Vous avez la parole, même en ce jour de marché fermé. L'adresse est direct@bfmbusiness.fr. Et puis, vous pouvez également m'écrire sur LinkedIn en message privé. Je vous lis. À suivre, on va faire le point sur les actualités finances personnelles qui vous concernent.
Votre rendez-vous avec AG2R La Mondiale. Épargne, retraite, santé, prévoyance. Avec AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain.
Tout pour investir, le journal de votre argent.
Un mot de bourse pour démarrer. Wall Street a fini en ordre dispersé hier, ultime séance de la semaine et du trimestre. Le Dow Jones a gagné 0,12% à 39,807 points. Le S&P plus large a pris 0,11% à 5,254 points. Et le Nasdaq composite de son côté a reculé légèrement de 20 points à 16,379. Les trois principaux indices de Wall Street finissent le trimestre en nette hausse. C'est même le meilleur premier trimestre pour le S&P depuis 2019. Il a pris plus de 10% entre janvier et mars, dopé évidemment, vous vous en doutez, par l'engouement pour l'intelligence artificielle et puis la perspective d'un assouplissement de la politique monétaire de la Fed, peut-être cette année. Le Dow Jones, lui, s'est rapproché du seuil des 40 000 points sans toutefois les atteindre, après avoir dépassé pour la première fois les 39 000 points plus tôt cette année. De notre côté de l'Atlantique, la Bourse de Paris, hier, a aussi achevé sa dernière séance de la semaine, du mois et du trimestre à 8205 points, bien aidé par la dynamique des valeurs bancaires. La Société Générale plus 2,3%, BNP Paribas plus 1,8% ou encore le Crédit Agricole en hausse de 1,7%. En fin de matinée hier, on l'a suivi pendant le direct, le CAC 40 s'est brièvement frotté aux 8254 points, un nouveau record absolu intraday qui lui a permis de tester le seuil symbolique qu'on surveillait avec nos traders des 8250 points. L'objectif long terme que le CAC s'était fixé avant néanmoins que l'indice parisien ne cède progressivement l'ensemble de ses gains sur la séance d'hier. Sur le trimestre, eh bien, à Paris, on a progressé de 8,7% après avoir déjà pris presque 6% au trimestre précédent. Reste-t-il des opportunités d'investissement? On va voir ça avec Olivier Lévy dans quelques minutes. C'est donc un long week-end pascal. Les marchés occidentaux ont fermé hier soir pour ne rouvrir que lundi pour Wall Street et puis mardi pour les places européennes, dont Paris. Les investisseurs ont découvert hier la dernière estimation de la croissance du PIB américain au quatrième trimestre, je vous le rappelle, révisée de 0,2% à la hausse et qui ressort à 3,4% en rythme annualisé. À part ça, l'actualité de la semaine a été assez peu fournie. Le principal événement, on l'attend aujourd'hui, côté États-Unis, c'est la publication de l'indice PCE pour février, l'indicateur d'inflation privilégié, vous le savez, par la Fed. Et le président de la Réserve fédérale, justement, Jérôme Powell, qui s'exprimera également cet après-midi, bien que les marchés soient fermés. Un mot de pétrole en hausse, alors que l'approvisionnement mondial, lui, est en baisse. Les cours ont grimpé hier, il faut le relever. Le baril de Brent de mer du Nord pour livraison en mai a pris 1,6% à $87. L'équivalent américain, le baril WTI, a gagné 2,2% à $83. Les deux profitent des problèmes d'approvisionnement ou en tout cas des craintes de rupture à travers le monde. Les perspectives de production et d'exportation de la Russie sont progressivement dégradées en raison des frappes de drones ukrainiens. C'est ce que dit un analyste de chez PVM Energy. Le contexte géopolitique, mais aussi la volonté de l'OPEP+, de maintenir ses coupes de production, ont apporté du soutien au cours du brut. C'est ce qu'on constate. L'OPEP+, qui tiendra une réunion technique le 3 avril, juste après le week-end prolongé. Et puis pour finir, pas de chocolat, mais un mot de tabac. On va, selon les échos, avoir un décret aujourd'hui publié dans les prochaines heures pour autoriser les particuliers à importer, oui, à vous, vous particuliers qui fumez, à importer depuis un autre pays de l'Union européenne jusqu'à 800 cigarettes. Alors 800 cigarettes, ça veut dire quoi? Ça veut dire 4 cartouches, 400 cigarios, 20 cigares ou 1 kilo de tabac, c'est-à-dire très exactement 4 fois ce qui est actuellement permis par les douanes françaises depuis 2020. Fin septembre, c'est une décision du Conseil d'État qui a imposé à la France simplement d'aligner ses quotas légaux d'importation de tabac sur les règles qui sont déjà en vigueur dans la communauté européenne. C'est donc fait. Le gouvernement, toujours d'après nos confrères des Échos, a traîné les pieds parce qu'il redoutait que ça ne se traduise par un boom des achats de cigarettes à l'étranger. Car oui, c'est moins onéreux chez nos voisins. En Belgique, les cigarettes sont environ 20% moins chères. Au Luxembourg, en Espagne et en Andorre, c'est 50% de moins. Le prix moyen en France du paquet de cigarettes a pris 50% depuis 2018 et dépasse les 12 euros. Pour ceux qui ne fument pas, vous vous rendez compte, 12 euros. Le gouvernement vient de boucler une deuxième opération de nettoyage, d'opération douanière, en tout cas d'ampleur, baptisée Colbert 2, qui visait spécifiquement les trafiquants de tabac. Elle était promise par le ministre du budget Thomas Cazenave, au buraliste. Et cette série d'opérations de coup de poing s'est terminée hier, dans les aéroports, sur les points de vente à la sauvette et aussi sur les routes. C'est l'heure de parler de bourse, même si les marchés sont fermés. On va faire le point avec l'équipe de Levy Capital Partners pour voir si le trimestre plutôt glorieux côté de la Bourse de Paris peut nous permettre, à nous d'investisseurs particuliers, de continuer de faire des bonnes affaires. C'est à suivre.
Tout pour investir, les marchés et vous.
Eh bien oui, pas d'Antoine Larigauderie à Euronext, il est déjà en week-end. Nos traders sont aussi en week-end, et ce jusqu'à mardi, parce que les bourses européennes seront fermées lundi inclus, ce qui ne sera pas le cas à Wall Street, qui travaillera lundi. Heureusement, Olivier Lévy est avec nous. Bonjour Olivier.
Bonjour Lorraine, merci de me recevoir.
Pas de week-end prolongé pour vous, vous êtes président de Levy Capital Partners. On va vous demander votre regard sur ce trimestre qui vient de se clôturer en bourse. Pas mal du tout. En termes de performance, non?
Oui, on a atteint des records. Alors, comme vous l'avez mentionné, moi, je suis ancien banquier, gérant, trader. Le Multifamily Office Levy Capital Partners vise d'abord à sanctuariser les patrimoines de nos clients, puis à développer. Et évidemment, on a un trimestre record, tout étant le vert. Le CAC 40 plus 9, le Nasdaq plus 9, le pétrole plus 10, l'or plus 9. Tout ça, c'est très bien, avec de grandes disparités. Et si on dézoome, on voit que le Nasdaq a fait plus 56% sur les 15 derniers mois, alors que le CAC 40 n'a fait que 17%. On voit que là aussi, si on dézoome dans les valeurs, on a du Nvidia dans le Nasdaq qui fait plus 90%, Meta plus 40, et on a des valeurs comme Apple à moins 13 et Tesla à moins 30. Donc ces disparités, on les retrouve dans la technologie, on les retrouve dans le luxe, LVMH plus 13, Kering moins 9, Hermès plus 23, Rémy Cointreau moins 25, et des secteurs qui sont à la traîne et d'autres qui, évidemment, de par le contexte, prennent là aussi toutes les parts de marché, je dirais, des actionnaires, donc les bancaires et certains autres secteurs, évidemment, comme les médias, évidemment. Donc, en ce qui concerne les opportunités d'investissement, je dirais que les valeurs de croissance sont bien payées, il est temps de prendre certains bénéfices.
Il est temps de prendre des bénéfices, vous sur,
oui, il est temps d'écréter, évidemment, puisque le marché minimise là aussi un contexte géopolitique. L'inflation était attendue en forte baisse, elle revient, elle est volatile. La transition énergétique est pour beaucoup, la réindustrialisation, le protectionnisme, le conflit géopolitique, les sanctions internationales, tout ça, ça va laisser une inflation qui fera que les taux ne devraient peut-être pas baisser tout de suite. En tout cas, les banques centrales nous ont prévenus, cela va durer. Donc des opportunités, il y en a dans les marchés actions, sur les small et mid caps, évidemment, sur les valeurs patrimoniales qui se traitent sur des price-earnings ratio raisonnable avec du pricing power. Il y en a également dans les foncières cotées en bourse qui ont été un peu trop survendues, celles qui ont du pricing power, celles qui indexent les loyers. Je pense pas au résidentiel, mais je pense naturellement à la logistique, je pense aux data centers, je pense aux centres commerciaux versus les bureaux qui ne sont pas prime et qui eux continueront de souffrir. Il y a également des opportunités dans le marché obligataire.
Vous voyez,
pendant 10 ans, on a eu une période où les taux d'intérêt étaient quasi zéro, voire négatif. Donc, on se battait pour avoir 1%. Aujourd'hui, sur des notes, des bonnes notes, investment grade, du triple B+, du A-, on peut très clairement avoir du portage pendant 5 à 7 ans et obtenir 5%. Sans trop prise de risque, avec même une potentielle baisse des taux qui ferait que la sensibilité donnerait davantage de rendement à ces obligations. Donc on a redécouvert les obligations maintenant depuis 18 mois, comme on redécouvre un peu la dette privée. Un bémol, je ferai très attention à tout le high yield, à toutes les, effectivement, tous ces émetteurs moins bien notés, car trop endettés, aux structures bilancielles fragiles.
Vous nous disiez que dans les opportunités d'investissement, vous regardez de près ce qu'on appelle les valeurs patrimoniales. Oui. Ça nous emmène du coup sur la cote mid et small. Pourquoi cette confiance alors qu'on le voit, cette cote, elle souffre quand même?
Elle souffre injustement. Elle souffre quand le private equity se traite sur des niveaux de valorisation qui est de l'ordre de peut-être 15 à 20 fois les résultats versus des small et mid cap qui traitent entre 7 et 10 fois. Elle souffre injustement à notre goût parce qu'évidemment il y a eu un environnement de taux certain, que les grands ETF de la place, les trackers, elles, s'arrogent surtout de répliquer les grandes capitalisations et pas forcément les small et mid cap pour des raisons budgétaires et économiques. Les small et mid cap, faut jamais oublier, ce sont des entreprises patrimoniales. Vous avez des actionnaires de référence qui sont des familles qui sont là pour une ou plusieurs générations, qui ne prennent pas des risques mais qui les encadrent.
Donc une structure financière que vous aimez bien.
Qu'on adore, avec des possibles bonnes nouvelles, des retraits de cotes, parce que là aussi injustement valorisés, avec des situations spéciales, là aussi parce que des réinventions à venir dans une configuration de marché qui est assez inédite, je dois dire. Je boursicote depuis une trentaine d'années. On sort de 10 ans qui ont été totalement anormales et on revient vers une certaine normalité avec des taux qui là aussi sont plus en rapport avec une certaine réalité. Je mettrai à nouveau un autre bémol, c'est que il y a aussi un risque qui me paraît sous-estimé lié au dégonflement, à la réduction du bilan des banques centrales. Il faut pas oublier que on a une guerre sur le sol européen, on a énormément d'élections cette année et on a une inflation qui n'est pas forcément sous contrôle.
Donc, on va le voir cet après-midi avec l'annonce du PCE.
Tout à fait.
Donc vous nous dites votre regard sur les banques centrales là en tant qu'investisseur particulier, que faut-il retenir des dernières décisions ou non-décisions?
C'est que les taux pourraient baisser, mais beaucoup plus lentement que prévu, beaucoup plus lentement qu'attendu, ce qui pourrait décevoir le marché. Ce qu'il y a, c'est qu'en bonne gestion, quand on fait trop d'argent trop vite, il est bon d'écréter un peu, notamment sur des valeurs de croissance qui sont quand bien même incontournables. Je pense au Alphabet, au Amazon, au Apple, qui ont des systèmes, qui ont des semi-oligopoles, qui ont un pricing power, qui ont du cash, qui commencent à verser des dividendes, qui ont des structures bilancielle saine et qui seront encore là demain et après-demain de par les sous-jacents. La cybersécurité, le cloud, et évidemment, tout ça, ça a une traction pour le reste du monde, mais d'abord pour les 7 magnifiques, évidemment.
Olivier Lévy, président de Lévy Capital Partners. Le mot de la fin, vous savez, c'est une émission d'investissement qui s'adresse aux particuliers. On aime bien donner des bons conseils. Vous avez rappelé que vous boursicotez depuis une trentaine d'années. Est-ce que là, il y a 4 jours, on s'ennuie? Est-ce que c'est le moment de boursicoter?
Écoutez, il est toujours moment de boursicoter. Il faut faire preuve de bon sens. Il faut savoir valoriser ce qu'on achète et savoir ce dans quoi on investit, se poser les bonnes questions et avoir ses intérêts alignés justement avec l'entreprise ou le produit dans lequel on rentre. Tout à fait.
Bon, on fait ses devoirs en gros ce week-end, on prend le temps si on
veut. Mais écoutez, restons studieux.
Se documenter. Et qu'est-ce que le mot d'ordre pour la semaine prochaine ? Qu'est-ce que vous anticipez ?
Écoutez, on n'a aucune boule de cristal. Nous, on est là pour le très long terme. On est là pour plusieurs générations, je l'espère. Et donc, l'idée, c'est surtout de commencer tranquillement à réduire un peu la voilure et à possiblement profiter d'opportunités qui pourraient se dégager demain et après-demain.
Voilà, il est temps de décréter. C'est ce que vous dit Olivier de l'équipe Lévy Capital Partners. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui pour poser votre regard sur ce premier trimestre boursier de l'année. Il est temps de parler peut-être de la fin du chapitre le plus moche de la courte histoire du marché des cryptos. On va parler de Sam Bankman-Fried, le patron d'FTX qui a été condamné hier avec nos experts. C'est à suivre dans quelques secondes. À tout de suite.
Tout pour investir, tout pour votre argent.
Nous enchaînons sans aucune transition vers notre table ronde d'experts qui ce matin est réunie, bien que les marchés soient fermés, pour parler de l'actualité financière et patrimoniale qui nous concerne. D'abord une femme, bonjour Caroline Ménager.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes la cofondatrice de PixPay, l'éducation financière pour les plus jeunes et leurs parents. Nous sommes également avec Mounir Lagoun, cofondateur de Finari. Bonjour Mounir.
Bonjour Lorraine.
L'éducation financière pour tous. Et puis, ce n'est pas jeudi, pas de panique pour ceux qui nous suivent au quotidien, mais Alexandre Leng de Tidigo est là. Bonjour Alexandre.
Bonjour Lorraine.
C'est week-end prolongé à Paris pour Alexandre également. Nous allons commencer ce tour d'horizon de l'actualité financière, évidemment, avec un ancien des cryptos derrière les barreaux pour 25 ans. Mounir, vous nous racontez ?
Écoutez, c'est la suite de notre saga Dallas version crypto. Sam Bankman-Fried a été jugé. Il a été condamné à 25 ans de prison. Vous l'avez dit, à 11 milliards d'amende aussi. C'est quand même...
C'est pas rien.
C'est pas rien. Finalement, il s'en sort pas si mal puisque le procureur avait demandé entre 40 et 50 ans. La peine maximale encourue était 110 ans. Donc, Sam Bankman-Fried, qui aujourd'hui a 33 ans, sortira de prison finalement relativement jeune. Donc, il y aura une vie après pour lui. Tant mieux. Le procès a été quand même un spectacle incroyable. Le juge a dit qu'en 30 ans de carrière, il n'avait jamais vu quelqu'un qui était aussi manipulateur dans l'audience. Donc c'était vraiment assez incroyable. Et si on le met en parallèle avec Madoff, qui était le plus grand criminel financier, je pense, de l'histoire jusqu'à maintenant, il s'en sort quand même très bien.
Il a pris 150 ans, Madoff, non ?
Il avait pris pour 150 ans. Il est mort au bout d'une dizaine d'années. Donc voilà, c'était quand même assez brutal. Ce qui est sûr, c'est que c'est quand même énorme par rapport au crime, on va dire. Alors évidemment, il y a eu 9 milliards d'euros qui sont volatilisés. Mais il faut bien comprendre qu'en France, pour des crimes de sang, il y a des gens qui ont des peines qui sont largement inférieures à ça. Donc on est vraiment sur un coup de massue de la justice qui veut envoyer un signal, à savoir... Le secteur de la crypto, il va falloir vous mettre au diapason, il va falloir arrêter de faire ça, sinon vous allez aller en prison comme SBF.
Est-ce que c'est la fin d'un chapitre très très moche de cette histoire crypto très courte, Caroline ? Qu'est-ce que vous regardez ? Comment vous regardez cet épisode de Dallas crypto ?
Bah, effectivement, c'est en tout cas un signal d'alarme comme Mounir le dit. On voit qu'aujourd'hui, seuls 10% des Français ont investi en crypto-monnaie, même si ça augmente de plus en plus. Je pense qu'il y a besoin aussi de signaux un petit peu plus rassurants pour les investisseurs pour pouvoir investir de manière plus sereine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les banques, typiquement, sont encore très frileuses par rapport à ça.
C'est seulement 10% ou déjà 10%, c'est selon. Mais en tout cas, ce que vous nous dites ce matin, c'est que les banques et puis plus largement les courtiers n'aident pas beaucoup à rassurer non plus.
Non, ils ont assez peu pris le pli aujourd'hui, même si la hausse récente est très très forte du Bitcoin, je pense, va faire bouger les lignes en 2024. En tout cas, elles sont aujourd'hui frileuses, à la fois un peu effrayées, je pense, par la chute de Terra en 2022, par les 25 ans de prison de SBF. Mais on sent que les lignes vont bouger et que potentiellement, en tout cas, des banques, des courtiers pourraient être intéressés dans 2024 pour commencer à permettre aux investisseurs d'investir en crypto.
Quand on voit le rallye crypto des dernières semaines, on se dit que la page est déjà tournée. Il y a quand même pas mal de cash qui transite là, Mounir.
Bah écoutez, il y a 6,5 millions de Français qui investissent en crypto. Donc si les banques ne veulent pas se réveiller maintenant, tant pis pour elles. J'ai envie de dire, il y a d'autres courtiers excellents, notamment, que je ne citerai pas, qui proposent déjà des solutions. Donc il y a plein de solutions en réalité. Je pense que les banques sont assez hypocrites. Elles disent qu'elles veulent protéger l'utilisateur, mais en parallèle, vous pouvez acheter des produits dérivés. Mmh. Vous pouvez acheter du hors PA qui a fait moins 99%. Vous pouvez acheter du produit structuré, qui est quand même un produit assez complexe. Donc, toutes ces banques qui, d'un côté, mettent en avant la protection de l'utilisateur ou du consommateur ou de l'investisseur, vendent des produits qui sont extrêmement dangereux et qui sont, par essence, des produits de spéculation. Mmh. Personne n'a besoin d'un produit dérivé, ça n'existe pas. Enfin, c'est juste pour jouer et pour gagner de l'argent, et il y a beaucoup de commissions dedans. Donc je trouve ça assez hypocrite. Et comme Caroline l'a dit, 11% ou 12% des Français seulement qui investissent en crypto, mais je trouve ça énorme en fait. Mmh. C'est plus 28% par rapport à l'année dernière, et c'est déjà la deuxième classe d'actifs préférée des Français. Donc je pense que d'ici quelques années, ça sera la première, et la plupart, peut-être que nos enfants ou les enfants de nos enfants commenceront à investir en crypto avant même de toucher aux actions qui seront un peu l'actif des boomers.
De Sam Bankman-Fried en Bermuda à Larry Fink de BlackRock, qui dit que les cryptos c'est bien, l'industrie a quand même changé de face quoi.
Ouais, je pense qu'il y a les cryptos qui ont pris un grand intérêt hein, chez les Français, chez les particuliers, mais en général, le non-coté qui est monté en même temps. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant de voir, c'est que les deux ont une montée qui se fait en parallèle. Pour revenir sur les banques, ce qu'on voit depuis des années, hein, c'est que les banquiers, les courtiers, ces acteurs historiques sont plus préoccupés par le risque d'image, finalement par le risque pour l'épargnant. Mmh. Et je rejoins Mounir là-dessus. Ils ont des produits qui sont vraiment pas bons, qu'ils n'ont aucun problème à lister et à relister, parce que c'est des produits traditionnels qui sont là depuis longtemps, qui ont des performances qui sont très mauvaises, qui affichent des garanties de rendement, en tout cas qui sont vues par l'épargnant comme garantie, hein, la SCPI hein, en l'occurrence par exemple, hein, alors qu'en réalité, l'argent est à risque, de la même manière qu'en bourse, qu'en mon côté, qu'en crypto. Et lorsqu'on regarde justement BlackRock et l'ETF Bitcoin et ses performances, on voit qu'il y a de plus en plus de produits aussi qui permettent de sécuriser des rendements, hein, qui ont commencé à avoir l'équivalent des produits structurés sur les cryptos. Finalement, est-ce que vraiment c'est une classe d'actifs qui est si dangereuse que ça? Oui, c'est une classe d'actifs risquée. Oui, il y a de la volatilité. Maintenant, bon, on est dans l'investissement, et le risque et le rendement sont corrélés. Je pense que ça, il faut le voir. Il y a des nouveaux acteurs qui émergent, et d'ailleurs, cette frilosité des banques laisse place à ces nouveaux acteurs.
Voilà, le dilemme peut-être des banques et des courtiers entre le risque d'image et le risque réel pour les épargnants. On en reparlera avec Amaury de Tonquédec en fin d'émission, puisque c'est vendredi. Amaury, qui est aux manettes de BFM Crypto, le club viendra nous faire son édito crypto. Un petit mot pour finir ce tour d'horizon sur la French Tech, sur les recrutements. Alors, on le sait, il y a un petit hiver dans la tech française, mais néanmoins, ça recrute. Des entreprises ont même beaucoup recruté. Alexandre, vous nous faites un petit top.
Oui, alors ça continue à bien recruter. Hein. Petit point quand même, les startups, parce qu'on pouvait s'imaginer, il y a quelques années, on voyait les startups comme un petit pan de l'économie. Ça représente aujourd'hui 5 à 10% de l'économie. C'est à l'origine de plus d'1,5 million d'emplois. C'est plus que les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique, de l'agriculture réunis. Hein, c'est le président de la République avait fixé des objectifs ambitieux, hein, 100 licornes, 500 start-up deep tech d'ici à 2030. Pourquoi ces objectifs-là? Parce que aujourd'hui, ce dont on est persuadé, hein, chez Tudigo également, c'est que ces objectifs de moyens-là, ces start-up, c'est le meilleur moyen d'atteindre le plein emploi, c'est le meilleur moyen d'assurer la neutralité carbone d'ici à 2050, et donc de nous permettre d'aller vers cette transition environnementale dont on a besoin. Donc l'emploi dans les startups, c'est important. L'emploi dans les startups, il est continué à être dynamique. Hein. Il y a des secteurs qui recrutent. Alors, on en parlait tout à l'heure, finalement, les secteurs qui recrutent, c'est les secteurs qui lèvent aussi de l'argent. Donc, en première position, on trouve les green tech. On se souvient c'est de la récente levée de Vercor. Je pense qu'on aura l'IA sur, même si c'est encore focalisé sur quelques startups. On a en deuxième position les startups industrielles, et notamment les startups deep tech, dont on parlera tout à l'heure, qui ont connu 35% de croissance moyenne en 2023. Et puis en troisième position reste le logiciel, qui a toujours été dans le top 3, et qui fait plus 30% en moyenne. Point intéressant, c'est dans les fintech. Alors, La fintech n'allait pas très bien hein, du point de vue des levées de fonds, à l'exception de certaines, comme Penny Lane qui est passée au statut de licorne récemment. Et puis, vous avez Conto également, qui affiche plus de quasiment 300 emplois supplémentaires, parce que Conto, finalement, se porte bien pour trois raisons. Une très grosse levée de fonds en 2021, hein, de quasiment un demi-milliard d'euros. Également, un modèle en abonnement qui permet d'assurer de la récurrence. Et puis, ça fait partie de ces acteurs qui finalement profitent de la hausse des taux d'intérêt. On a tous ceux qui ont pâti de cette hausse des taux d'intérêt, tous les acteurs de l'immobilier, tous ceux qui avaient besoin de financement. Et puis vous avez les banquiers, et puis ceux qui ont des dépôts, qui grâce à ces taux d'intérêt commencent à générer des revenus.
Voilà. Bon, en tout cas, la bonne raison de recruter, c'est d'avoir plus de clients. Vous êtes presque tous dans cet écosystème fintech, enfin tech en tout cas, mais même fintech.
Fintech.
Voilà. Vous recrutez en ce moment?
Tout à fait.
Mounir, faites un peu de pub pour vos recrutements là, en ce moment.
On continue de recruter. On continue de recruter dans le produit, au support client, des développeurs, front-end, back-end évidemment. Je pense qu'on a été, nous, on a levé beaucoup très tôt, et ensuite on n'a pas beaucoup recruté. Et moi, quand je voyais les gros titres des journaux de gens qui disaient qu'ils avaient doublé leurs effectifs et qu'ils allaient redoubler l'année prochaine, je trouvais ça assez paradoxal. Et moi, ça me donnait surtout mal à la tête de me dire que j'allais devoir gérer autant de nouvelles personnes. Et je ne voyais pas comment on pouvait embaucher autant de personnes qualitatives. Enfin, c'était impossible. Et donc là, aujourd'hui, on le voit, il y a des sociétés que je ne nommerai pas qui ont embauché des gens sur un an et qui ont licencié l'ensemble des gens qu'ils avaient embauchés l'année dernière. Donc c'est quand même complètement absurde. Donc nous, on embauche, on grossit doucement mais sûrement, parce que notre objectif, c'est d'être rentable, c'est de faire comme Conto, c'est de faire comme Penny Lane, c'est d'être une entreprise rentable. C'est quand même l'essence même de l'entrepreneuriat, c'est de faire une société qui est autosuffisante. Absolument. Lever des fonds, c'est bien, être indépendant, c'est mieux.
Vous, Caroline, en tant que recruteuse, vos problèmes en ce moment?
Alors, nos problèmes, pas tant que ça, parce qu'effectivement, on est plutôt bien staffé pour notre croissance. Et un peu comme Mounir, on a vraiment cette envie de croître de façon très rentable. Donc, c'est vrai qu'on a évidemment des recrutements pour accompagner la hausse de notre nombre d'abonnés d'XP, au service client, à la tech, voilà. Mais on est sur des recrutements qui sont relativement prudents, dans un milieu où, effectivement, on vise la rentabilité aussi.
Voilà. Les médias économiques ont une petite part de responsabilité, parce qu'à une époque, on ne parlait que des levées de fonds. Après, comme il n'y a plus de levées, on a surtout parlé des recrutements. Donc aujourd'hui, essayons de nous concentrer sur la rentabilité de nos entreprises, la viabilité. Comme dans la deep tech, n'est-ce pas, Alexandre?
Comme dans la deep tech. Alors, dans la deep tech, non, c'est un autre sujet, effectivement, parce que là, on va investir massivement.
Mais on en parlera tout à l'heure, parce qu'on est en retard. Vous serez notre coach tout à l'heure vers 11h05, Alexandre. On parlera de la deep tech. Bon, écosystème complètement reconfiguré, hein, vous allez nous en parler. Puis surtout, vous allez nous donner les clés d'investissement pour être un bon investisseur dans ce secteur deep tech où la France a une belle carte à jouer. Ce sera dans une grosse demi-heure. Pour l'heure, même si les marchés sont fermés, nous sommes en direct. Nicolas Dose nous rejoint dans quelques minutes. Il nous emmène à la foire fiscale, celle qui a démarré il y a 48 heures. La créativité de nos élus pour inventer de la fiscalité est sans limite. Êtes-vous d'accord avec ça? En tout cas, on en parle dans quelques secondes avec Nicolas. À tout de suite.
Tout pour investir sur BFM Business. Tout pour investir. Dose d'économie.
On vous emmène à la foire fiscale. C'est Nicolas, notre bout en train. L'annonce du déficit le plus élevé que prévu, élevé que prévu, relance la boîte à idées pour aller chercher de l'argent par l'impôt. Qui dit quoi?
Il a fallu deux jours. Il y en a pour tout le monde. Alors, les profits exceptionnels, on remonte la taxe sur le capital, on gèle le barème de l'impôt sur le revenu, ce qui peut faire rentrer des gens dans l'impôt, voire aller faire passer une tranche. On taxe les rachats d'actions, on taxe les revenus des compagnies pétrolières. On fait une taxe exceptionnelle, dit Pierre Moscovici, mais enfin l'exceptionnel temporaire en France, on sait ce que ça donne. Et puis alors, il y a l'impôt qui n'est pas de l'impôt, mais qui a le même effet. Je taille le crédit d'impôt recherche qui coûte 6,5 milliards par an. Et la Cour des comptes qui vient de proposer de tailler dans le soutien que l'État accorde au service à la personne, première niche fiscale qui coûte 9 milliards par an. Tout ça en deux jours. Je vous laisse imaginer en une semaine. Voilà.
Heureusement, il y a un week-end férié devant nous.
C'est ça.
La question, c'est, on voit que les élus s'emballent. Mais à côté de ça, Bruno Le Maire martèle qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Alors, on écoute qui?
Eh bien, le problème, c'est que Bruno Le Maire, au-dessus de lui, il a un Premier ministre, Gabriel Attal. Et sur TF1, il a dit « J'ai pas de dogme. J'ai deux lignes rouges. Pas de hausse d'impôts pour les classes moyennes travailleuses, pas de hausse d'impôts pour les entreprises. Ben, pas de dogme, ça vous ouvre le champ. Et puis, objectivement, rien n'est jamais impossible en France quand il s'agit de fiscalité. Et puis, on connaît les promesses. Enfin, moi, je me souviens de Nicolas Sarkozy pendant des années. Je n'ai pas été élu pour monter les impôts. Et patatras, fin du gouvernement, enfin, du quinquennat Sarkozy, début du choc fiscal avec François Fillon, que François Hollande, avec un talent non dissimulé, va s'attaquer à accélérer très sensiblement à son arrivée en 2012.
Bon, à côté de ça, face à un tel déficit, parce que voilà, factuellement, il y a un déficit, faire entrer plus d'argent fait quand même, partie des options.
Oui, normalement, mais plus chez nous. Non, c'est fini là maintenant. On n'a plus la possibilité. Ce levier fiscal, on l'a essoré jusqu'au bout. Parce qu'on a ce fameux record de prélèvement obligatoire. Si on continue, on l'aura, mais alors à vie, le record de prélèvement obligatoire. Parce que si vous décidez de monter les impôts sur le capital, parce qu'on a l'impression que c'est indolore, ou que sur les entreprises, parce que ça ne vote pas, mais vous avez un effet récessif sur l'investissement. Vous avez forcément un effet récessif sur la compétitivité. Le choc fiscal Fillon-Hollande va mettre l'économie française à genoux en 2011-2012. Faut quand même pas l'oublier. Ensuite, j'entends, on va tailler les aides aux entreprises. Ah, le mot aide, c'est merveilleux, ça. Parce qu'on a l'impression que c'est des aides. Non. Vous prenez les trois quarts de l'ensemble du soutien aux entreprises, ce sont des allègements de cotisations sociales. Mmh. On a fait ça pourquoi ? Parce qu'on a tout simplement un modèle social hors de prix que nous n'arrivons plus à financer. Et si on fait tout payer par le travail comme c'était le cas après-guerre, oui, ça passait après-guerre, mais ça passe plus aujourd'hui. Ça coûte trop cher. Et donc, si vous voulez qu'on supprime les aides aux entreprises, entre guillemets, n'est-ce pas ? Ben voilà, il y a 90 milliards d'euros d'allègements de cotisations. Allez, on les supprime, les 90 milliards. Je peux vous assurer que là, on a un choc sur le chômage absolument historique. Je ne pourrais pas vous le compter en point de taux de chômage, mais ce serait monumental. Et ça intervient. Il faudrait moins d'un an pour l'avoir. Après, monter les impôts, c'est sympa, mais ça ne répond pas à l'ampleur du problème. Je vous rappelle le déficit 2023, 154 milliards d'euros. Alors, on a 1000 milliards de prélèvements obligatoires. Qu'est-ce qu'on fait ? On monte à 1160 milliards. Mais c'est impensable. C'est plus possible, ça. Et puis, en plus, on sait que quand on agit trop violemment sur l'impôt, ça se paye dans les urnes. On a vaguement essayé de tripatouiller la TICPE en 2018 et la CSG. Puis récemment, là, on s'est intéressé au gazole non routier. On a vu le résultat. Ouais. Donc, il y a eu un sondage élable BFM TV mercredi sur qu'est-ce qu'il faudrait faire face au déficit. À la question, faut-il monter les impôts ? Vous avez plus de la moitié des Français qui disent non. Globalement, il ne faut pas monter les impôts. Et alors, si on montait les impôts pour les riches ou les entreprises très riches ?
200%
oui. Eh bien non, justement, non. Ça a changé. Il y a moins de 50% des réponses qui sont favorables à une taxation des particuliers aisés ou des entreprises très riches. Alors qu'à ce
Mais parce que la théorie du ruissellement fonctionne ?
Non, mais au-delà de la théorie du ruissellement, à cette question-là, il y a encore quelques années, vous aviez 80% qui étaient favorables, par exemple, à un ISF. Ouais. Bon, et donc, si vous voulez, voilà, on en est là. Donc, vous avez trois solutions aujourd'hui si vous voulez lutter contre le déficit.
Dites-nous.
Effectivement, aller prélever plus, mais on a vu qu'objectivement, on est allé au bout de l'histoire. Il y a la croissance, avec l'augmentation du taux d'emploi. C'est une autre façon de dire qu'il faut travailler plus et faire travailler plus de monde. Et puis, alors, il y a un scoop incroyable, c'est s'attaquer aux dépenses publiques. Alors là, je pense que vous ne l'avez jamais entendu, je suis le premier à vous le dire. S'attaquer à la dépense publique, c'est un double défi. D'abord, la baisser, et ensuite, la rendre plus efficace. On le dit depuis... Enfin voilà. Non mais c'est absolument incroyable ce concours l'épine de la fiscalité en si peu de temps, je suis fasciné.
Voilà, la foire fiscale est en ce moment en France.
Halt au sado-fiscalisme pour rendre hommage à l'expression de Jean-Marc Daniel.
Jean-Marc, il y a toujours le mot parfait, ce sado-fiscalisme dans lequel nous sommes. Merci Nicolas pour cette dose d'économie à retrouver en podcast et en replay sur l'application BFM Business et sur YouTube où vous pouvez également réagir. Merci Nicolas. Nous allons nous occuper de votre portefeuille sans aucune transition. On va parler d'un secteur qui recrute, qui est en croissance et peut-être qui n'utilise pas trop la dépense publique pour vivre. On va voir ça avec Éric Lafrenière. On va parler du secteur de la cybersécurité.
Tout pour investir, les marchés et vous.
Ce secteur de la cybersécurité, quand même, qui est alimenté par pas mal de subventions, on peut le souligner tout de même, on va le décrypter avec vous, Éric Lafrenière. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gérant senior chez Richelieu Gestion. Il y a moult choses à dire sur ce secteur. Racontez-nous.
Oui, tout d'abord, c'est un secteur, il faut le, l'avoir en tête, qui a très bien performé l'année dernière. On a vu, bien entendu, l'importance qu'on doit accorder de plus en plus à la protection des données. Mm-mm. On voit que le nombre d'attaques dans le monde ne cesse de progresser. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle facilite aussi les attaques, puisque ça permet à des hackers un peu moins sophistiqués d'améliorer leurs attaques.
Elle aide les deux camps, cette IA.
Exactement. Et donc, on voit que les dépenses pour suivre et pour pouvoir garder une longueur d'avance sont importantes dans le secteur. Si vous prenez le tracker ou l'ETF iShares Digital, l'année dernière, une performance de presque 38%. Mais à l'intérieur des valeurs, on a des écarts de performance qui sont significatifs. Vous prenez un Checkpoint qui avait progressé de l'ordre de 21% ou un CrowdStrike qui a fait près de 143% l'année dernière. Mmh. Donc, on peut avoir des écarts de performance à l'intérieur même de cette thématique qui sont importants. Depuis le début de l'année, les performances sont un peu plus modérées. L'ETF, lui, en soi, sous-performe le marché puisqu'il est en hausse que de 3% avec certains acteurs comme Zscaler ou SentinelOne qui affichent des performances négatives. Donc, pour nous, cette consolidation du secteur peut permettre soit de renforcer si on est déjà présent sur le secteur ou si on n'est pas encore présent sur le secteur, de pouvoir commencer à créer une position sur cette thématique qui, pour nous, est plus long terme.
On parle d'un secteur mondial. Il y a des géants principalement américains. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont notables, qu'on peut remarquer dans ce secteur qui anime le marché?
Beaucoup des sociétés, notamment dans les sociétés dites privées qui ne sont pas encore en bourse, on peut avoir beaucoup de sociétés israéliennes. Le pays est très, très pointu sur tout ce qui tourne autour de l'informatique. Mais quand on regarde sur pourquoi on pense aujourd'hui qu'il faut retourner sur ce secteur, ou en tout cas renforcer, c'est qu'on a des catalyseurs importants qui...
Lesquels ?
Lesquels, on a déjà les budgets alloués à la sécurité informatique qui sont attendus de l'ordre d'une progression d'environ 10% par rapport à l'année dernière. On a parlé de la montée en puissance de l'IA, donc ça va nécessiter aussi de s'adapter à ça. On a un sentiment du public, et les entreprises sont vraiment face à ce challenge, c'est de protéger nos données personnelles. On a vraiment, les gens y attachent de plus en plus d'importance. Et puis, on a un nouveau modèle de gestion de la cybersécurité, ce qu'on appelle l'architecture de confiance zéro, qui monte en puissance, et on a aussi un soutien réglementaire, puisqu'il faut le rappeler, l'année dernière, la SEC avait mis en place, l'été dernier, mais effectif en fin de cette année, certaines obligations de reporting en termes de failles, ça veut dire qu'on a 4 jours pour déclarer les impacts. On doit aussi maintenant fournir des données sur le niveau de compétence des board members et des membres du conseil de surveillance en termes de cybersécurité. Mm-hmm. Ça veut dire que la cybersécurité quelque part aujourd'hui sort de la salle informatique et monte dans le board. Donc on va voir que les dirigeants des sociétés vont y attacher de plus en plus d'importance.
Ça n'est plus vu que comme un poste de coût, c'est même un poste de survie.
Oui, de stratégie et de l'entreprise.
Bon, donc, il y a plusieurs domaines dans la cybersécurité. Est-ce que vous pouvez nous les décrire, nous les raconter?
Oui, on va vous les décrire rapidement et on va vous donner ensuite 3 idées qui permettent d'adresser le secteur assez rapidement. Quand vous regardez les segments de la cybersécurité, le premier, c'est tout ce qui tourne autour du réseau. Et là, c'est d'empêcher les accès non autorisés et de surveiller tout ce qui se passe autour du réseau de façon très large. Les principaux acteurs sur ce secteur d'activité vont être Palo Alto, Fortinet, Checkpoint, Cisco, Zscaler et Akamai. Ensuite, vous avez le segment qui concerne tout ce qui est l'identité et l'access management. Ça veut dire que dans nos applications, que ça soit sur le cloud ou en local, on va définir qui peut accéder à quoi, quel type de software, quelles données à l'intérieur. Et là, les principaux acteurs sur cette partie-là sont CrowdStrike, SentinelOne, Microsoft. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la sécurité de l'information et de l'event management. Et là, c'est une espèce de fusion entre la cybersécurité et les opérations IT, c'est le traitement des données. Et vous avez ensuite la partie détection et réponse attendue. Ça, c'est un peu la protection de l'infrastructure informatique.
Et là, les acteurs... Les pompiers ou la police, quoi.
Exactement. Et là, vous avez CrowdStrike, SentinelOne et Microsoft. Et l'idée, donc, aujourd'hui, quand on gère notre sécurité informatique au sein de notre entreprise, on peut avoir une approche dite plateforme, où on va avoir une plateforme qui va gérer l'intégralité de ces segments, où l'entreprise peut choisir de faire appel à des solutions plus spécialisées sur des segments donnés. Donc nous, quand on a regardé le secteur, on a décidé qu'il fallait s'exposer à travers 3 noms qui adressent un petit peu toute cette chaîne. Le premier nom qui ressort, c'est Checkpoint. Checkpoint, c'est un des grands acteurs du secteur. C'est une société qui, pendant toute cette période d'argent gratuite, contrairement à beaucoup d'autres, n'a pas fait des acquisitions à tout va. C'est un peu la société qui va piano va sano. Elle s'est concentrée de une croissance mid-single digit, tranquille pendant cette période-là. Elle a, tout en rachetant environ 2 à 4% de ses titres chaque année, et avec des marges opérationnelles autour de 45%. Donc plutôt bien. Et quelques petits achats ciblés dans des secteurs sur lesquels ils n'étaient pas nécessairement présents et sur lesquels ils pouvaient constater qu'il y avait peut-être des choses à faire. Il faut se rappeler que Checkpoint, à la base, c'est la partie cloud. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont une approche plateforme qui est a priori différenciante des autres acteurs, puisque leur plateforme a un seul, ce qu'on appelle un Language Learning Model, un LLM, et ce qui permet de, à leur plateforme de communiquer sur tous les aspects de la cybersécurité.
C'est une plateforme qui, à l'intérieur, adresse les quatre domaines que vous avez listés, donc réseau, ID, sécurité de l'info, tout ça aidé par de l'IA, en fait.
Oui, et avec un seul LLM. Si on prend Palo Alto, à côté, qui a aussi une solution plateforme, mais à travers laquelle, a priori, il y a trois différents LLM qui doivent communiquer ensemble, et donc l'apprentissage va sans doute se faire moins rapidement. Donc Checkpoint a un avantage là-dessus qui est clair. Une autre avantage qui est important pour ce secteur sur lequel il faut regarder, l'autre nom qu'on a identifié, c'est le nom de CrowdStrike. CrowdStrike qui a très bien marché l'année dernière, qui continue cette année puisqu'encore en hausse de 28%. CrowdStrike, elle est intéressante puisque c'est elle qui va permettre, en fait, c'est un peu le leader sur la partie gestion des tâches. Donc sur le cloud, elle est vraiment perçue comme la partie gagnante de son secteur, de son segment d'activité. Et enfin, le dernier nom qu'on a identifié, hein, peut-être plus pour son caractère disruptif, c'est une boîte qui est beaucoup plus petite, c'est Zscaler. Je vous parlais tout à l'heure de tout ce qui était architecture de confiance zéro. Oui. Zscaler se distingue par sa plateforme qui s'appelle Zscaler Zero Trust Exchange. Et en fait, ce modèle de la gestion du risque, ça veut dire qu'on va partir du principe qu'on ne peut faire confiance à rien. Et on va tester et remettre en question tout. Ça veut dire qu'on va demander un accès, une personne va avoir un accès à certaines données ou certains softwares. On va regarder qui demande l'accès, où cette personne est située. On va à chaque fois challenger et remettre en cause tout ce qui se passe sur le réseau. Et donc Zscaler sont connus pour bénéficier, en tout cas pour opérer, étant l'acteur un peu de référence sur ce segment d'activité. Et en ayant une approche, je dirais, ce qu'il faudrait faire, c'est définir le poids qu'on veut allouer à cette thématique-là. Et ensuite, une approche équilibrée. Pondéré entre ces trois noms. Zscaler est beaucoup plus volatile de par sa taille, de par son segment spécifique. Et vous avez quand même en assise un Checkpoint qui est un peu la valeur fond de portefeuille. Et vous complétez avec un entremilieu sur CrowdStrike. Et peut-être un petit fun fact, si vous regardez, beaucoup des acteurs de la cybersécurité sont présents en F1.
En F1,
oui.
C'est des sponsors de
exactement,
l'automobile de course.
Le secteur F1 est très sophistiqué, très pointu. Hein. Vous retrouvez SentinelOne, CrowdStrike, DarkTrace, ByteDefender, Arctic Wolf, Acronis, mais pas encore Checkpoint. À voir.
Le prochain gros sponsor de la F1, peut-être. Éric Lafrenière, de l'équipe Richelieu Gestion, qui a partagé une stratégie diversifiée, vous l'avez entendu, pour investir dans le secteur de la cybersécurité. Vous nous avez parlé de Checkpoint, de CrowdStrike et de Zscaler. Que des entreprises américaines?
C'est mon marché de prédilection.
Bah oui, on sait,
je vais pas m'aventurer sur
notre gérant zones. D'Amérique du Nord. Voilà, ces trois entreprises, ça dit aussi quelque chose, hein, que dans la liste, vous ne zoomiez que sur des entreprises américaines, au-delà du fait que c'est votre cœur de métier, on va dire. Pourrait-on mettre un acteur européen en face de ces trois valeurs?
Moi, je connais moins le marché, je ne vais pas me prononcer, je ne vais pas parler d'une valeur que je maîtrise pas.
On réfléchira peut-être à des alternatives européennes, puisque cette semaine, et d'ailleurs vous pouvez retrouver la séquence en podcast, nous avons réfléchi à comment soutenir l'économie française en investissant, mais aussi comment miser sur la souveraineté européenne. C'était mercredi, à retrouver en podcast sur notre plateforme, comme l'interview d'Éric sur la cybersécurité, comment miser sur ce secteur, avec trois valeurs en portefeuille. Merci beaucoup Éric Lafrenière et l'équipe de Richelieu Gestion. Je vous précise qu'aujourd'hui les marchés sont fermés, donc vous ne retrouverez pas BFM Bourse cet après-midi, mais les actualités restent mises à jour au quotidien et pendant tout le week-end, même Pascal, sur notre site web et BFM Bourse. À suivre, on vous coach. Notre macroéconomiste du jour, Nathalie Benatia, vient nous expliquer ce que c'est que les indicateurs de confiance des ménages. C'est un chiffre qui est publié régulièrement, que les analystes et que vous peut-être vous suivez. Qu'est-ce qu'il veut dire et pourquoi il faut le surveiller, ces indices, quand on est investisseur particulier. À tout de suite.
Tout pour investir sur BFM Business. Tout pour investir, le coach.
C'est la coach ce vendredi. Nathalie Benatia est avec nous. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Vous êtes macroéconomiste chez BNP Paribas Asset Management avec nous ce matin pour zoomer sur ce qu'on appelle les indices de confiance des ménages. Bon, c'est un indice, ce sont des chiffres qui sont publiés régulièrement, vous allez nous raconter, notamment cette semaine et pour la France. Mais bon, comme on le fait avec vous, on aime bien retourner à l'origine de ces indices, de ces chiffres qu'on surveille dans l'économie. Vous allez nous raconter ce que c'est.
Alors, ce que ce n'est pas, déjà, ce ne sont pas des indices de bonheur. On ne demande pas aux gens, est-ce que vous allez bien, est-ce que vous en êtes bien. On leur pose une série de questions sur leur situation financière, leur intention d'achat, de gros achats, leur intention d'épargner, leur perception sur l'inflation, leur perception sur le chômage, en temps réel, si j'ose dire, et puis en perspective. Et tout ça nous donne un indice.
C'est une sorte de sondage auprès des ménages. Absolument. Comment sont sélectionnés ces ménages et par qui? Qui fabrique ces indices?
Alors, en général, en France, c'est l'INSEE, donc l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques, donc une institution qui est habituée à faire des sondages de nature économique. Il se trouve qu'ils interrogent à peu près 2000 ménages et ils sont sélectionnés selon la méthode habituelle, c'est-à-dire qu'on obtient, enfin on cherche à obtenir et on obtient un échantillon représentatif de la population.
Ça n'est pas un indice du bonheur des Français, vous nous dites, vous nous apprenez ou vous nous rappelez. Ils viennent d'être publiés, ces chiffres, cette semaine. Racontez-nous ce que ça donne chez nous.
Alors, honnêtement, d'habitude, ce sont des chiffres qui ne font pas beaucoup bouger les marchés. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord une grosse part de sentiments, malgré tout, hein. Encore plus que quand on interroge les entreprises. Mais malgré tout, ça donne des informations sur alors, la confiance des ménages en France, vous l'avez dit, dans bon nombre de pays, notamment aux États-Unis, on parle de confiance des consommateurs. Mm-hmm. C'est peut-être pas la même approche, mais en fait, si les questions sont équivalentes. Et ben, ces indices de confiance nous disent, ils ont été publiés en Belgique, en France, en Allemagne, pour la zone euro et aux États-Unis, que la confiance se stabilise, voire remonte légèrement. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et après, si on creuse dans les différentes sous-composantes, on s'aperçoit que les gens commencent, notamment en France, nous apprend l'INSEE, à vouloir davantage consommer, précisément ces gros achats qui peuvent être de l'électroménager, une voiture, etc. Donc épargner un petit peu moins. On sait qu'en France, on est parmi les champions du taux d'épargne. Et une autre caractéristique de toutes ces enquêtes, alors que ce soit aux États-Unis ou en Europe, c'est que les indices n'ont pas retrouvé les niveaux qui prévalaient avant la pandémie.
Alors, dites-nous où on est par rapport au niveau pré-pandémique.
Au niveau pré-pandémique, on est aux États-Unis. Alors, aux États-Unis, il y a deux grandes enquêtes. Il y en a une qui est peu baissée au moment de la pandémie et qui, depuis, est à peu près stable, hein, avec des oscillations. Et une autre qui avait beaucoup, beaucoup baissé et qui est en train péniblement de revenir au niveau d'il y a à peu près 3 ans. Donc, on est malgré tout après la pandémie.
Qu'est-ce que ça dit? On est toujours un petit peu dans la précaution, même au côté États-Unis, on préfère épargner que surconsommer?
Alors, les Américains, non, ils ne préfèrent pas épargner, hein, leur taux d'épargne.
Ont-ils déjà préféré voilà. Épargner?
Leur taux d'épargne est de l'ordre de 4% environ, il est de 17% en France, donc calculé à peu près de la même façon, donc la différence est importante. Ça nous dit qu'il y a malgré tout des hésitations, encore une fois, à se lancer dans des grands projets. Et à contrario, quand on épargne beaucoup, le but, c'est à la fin, normalement, de dépenser, en espérant que ce soit pour dépenser des choses dont on a envie et pas seulement dans l'urgence des choses dont on aurait besoin.
Nathalie, vous êtes macroéconomiste. Quelle est la corrélation, si je puis dire, et excusez-moi si mon propos n'est pas très précis, entre l'indicateur de confiance des ménages et d'autres chiffres qui peuvent concerner ces ménages, par exemple le taux de chômage ou qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, le cours de bourse? Est-ce qu'il y a des liens comme ça? Est-ce qu'on peut faire des corrélations?
Alors c'est honnêtement, c'est assez difficile, hein. C'est plus un indicateur qui ramène finalement l'économie un peu plus vers les sciences humaines, hein, ce qu'elle est. Mais on peut regarder. Ce qui est intéressant ces dernières années, c'est que les banques centrales, et notamment la Banque Centrale Européenne, a sa propre enquête auprès des ménages. Et donc, elle va concentrer les questions sur que pensez-vous de l'inflation? Pourquoi est-ce que c'est important pour une banque centrale? Eh bien, on revient toujours à la même histoire. Une banque centrale est chargée de ramener l'inflation vers 2%. Et si elle sent, si elle a la preuve ou des indices que les ménages pensent que l'inflation va continuer à augmenter, ça veut dire que ces mêmes ménages, que ces consommateurs vont exiger, demander au moins des hausses de salaire, et ça veut dire que l'inflation risque de s'auto-alimenter. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant. Auparavant, honnêtement, c'était ces indices de confiance des consommateurs, un indice mineur destiné à alimenter les gros modèles des instituts comme l'INSEE, également donner des renseignements en termes de marketing. Et puis, c'est devenu une partie des informations qui sont utilisées pour la politique monétaire, et c'est important à ce titre.
Vous avez souligné la différence entre cet indicateur aux États-Unis et en France. Déjà, c'est une différence de vocabulaire. En France, on parle de l'indicateur de confiance des ménages. Aux États-Unis, on parle de celui des consommateurs. D'un point de vue de la macroéconomiste que vous êtes, quelle est la différence entre des consommateurs et des ménages?
Alors, c'est un peu de la sémantique. Elle n'est pas énorme. On parle pour un ménage, on parle d'une unité de consommation en France.
Encore plus moche.
On retrouve les mêmes notions, mais malgré tout, la terminologie me semble peut-être pas extrêmement importante, mais en tout cas dire quelque chose de la façon dont on appréhende cet indicateur.
Bon, cet après-midi aux États-Unis, on aura le chiffre de l'inflation PCE. Jérôme Powell va parler, on n'espère pas trop dans le vide, parce que les marchés sont dans le vide. Qu'est-ce que vous anticipez dans votre équipe de ce qui va être annoncé, et de ce que peut-être pour ceux et celles qui nous écoutent, épargnants, investisseurs particuliers, il faudra retenir pour la semaine prochaine?
Alors, ce qu'il faudra retenir pour la semaine prochaine, cet indice, donc c'est une autre mesure de l'inflation qui est censée être privilégiée par la Fed parce qu'elle est normalement un petit peu plus stable.
C'est l'inflation PCE.
Voilà, l'inflation PCE, donc l'inflation sous-jacente. On regarde l'inflation sous-jacente, hors alimentaire et énergie. Et si ça se comporte comme l'indice des prix à la consommation, ça ne devrait pas constituer un choc. D'autant plus que le discours de Jérôme Powell à l'occasion de la précédente réunion de politique monétaire, c'était bah oui, on a bien constaté que l'inflation en janvier et février était plus élevée, mais on n'en tire pas des conséquences dramatiques. On continue à imaginer que nous, Banque centrale, on va pouvoir ramener cette inflation vers 2%. Donc encore une fois, cette statistique qui a été très regardée ces derniers temps, dans un vendredi après-midi où les marchés, enfin vendredi matin aux États-Unis où les marchés vont être fermés, ne devrait pas être trop importante.
Voilà. Les marchés américains qui seront ouverts lundi, contrairement aux marchés européens. Merci beaucoup Nathalie Benatia, macroéconomiste dans l'équipe de BNP Paribas Asset Management, avec nous au décryptage, au coaching sur ces expressions financières qu'on utilise parfois sans forcément les maîtriser ou comprendre exactement leurs origines. Cette séquence est à retrouver en podcast et en replay sur le site et l'application BFM Business. Vous restez avec nous. On continue à s'occuper de vos finances personnelles dans la deuxième partie de Tout pour investir. On va parler immobilier, on va s'intéresser à vous les expatriés qui nous suivez et qui nous écrivez. Où habitez-vous et où investissez-vous? Réponse avec Marie Cœur de Roy et nos experts. Et puis on vous coach avec Alexandre Leng de Tudigo. On va parler du secteur de la deep tech. Comment investir dans ce secteur et quelle est la différence peut-être avec d'autres secteurs où vous vous êtes exposé? Et puis c'est vendredi, Amaury de Tonquédec sera aux manettes de l'édito crypto. Tout ce qu'il y a à retenir de la semaine Web3 et Bitcoin avec lui, ce sera en fin de tranche. A tout de suite après la pub.
Tout pour investir sur BFM Business.